Radio Okapi. Oh, Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Leader de la société civile congolaise était hier en table ronde au menu de discussion l'éventualité de la non-organisation des élections en 2023. L'objectif était de préparer anticipativement les acteurs sociaux pour éviter au pays d'autres violences supplémentaires. Et puis les étudiants congolais de l'Ukraine qui sont actuellement en Belgique appelés à se faire identifier à l'ambassade de la RDC dès ce vendredi 8 avril. L'annonce est de l'ambassadeur qui rassure et affirme que cela permettra de mieux orienter l'assistance accordée à ces Congolais réfugiés. Enfin, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de ne plus engager des pourparlers avec les rebelles du M23. Cette structure citoyenne encourage plutôt l'armée à poursuivre le M23 jusqu'à sa dernière demeure. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir depuis la rédaction provinciale de Goma. Au Nord Kivu, au moins 8 morts et une dizaine de blessés graves. C'est le bilan encore provisoire d'une explosion qui s'est produite en début de soirée hier jeudi vers 19h30 dans un débit de boisson au camp militaire de Katindo. Selon des sources proches et des services de sécurité qui ont été dépêchés sur le lieu de l'incident, parmi les victimes figurent un lieutenant-colonel, un capitaine des FRDC, mais aussi la propriétaire du bar. Les autorités provinciales et urbaines sont arrivées sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les corps des victimes sont déjà à la morgue. Une information confirmée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans un tweet. D'autres détails dans nos prochaines éditions. Et si, comme le craignent certains milieux politiques, il n'était pas possible d'organiser les élections en 2023? Cette problématique a fait l'objet d'une table ronde des leaders de la société civile congolaise, hier jeudi ici à Kinshasa, organisée par la coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. L'objectif de ce forum, qui a réuni une soixantaine de leaders des organisations citoyennes, y compris féminines, Honoré Missenga Kalala, était de préparer anticipativement les acteurs sociaux à toute éventualité en vue d'éviter au pays d'autres violences supplémentaires.
Quelle sera l'issue du processus électoral en cours? C'est à cette interrogation que Kodia convie déjà l'ensemble de la société civile congolaise. Les leaders présents à la table ronde ont réfléchi sur deux scénarios. Maître Pax André Marikito Massimango, coordonnateur régional Afrique de la Kodia.
Premier scénario, il y a le respect du délai constitutionnel pour que les élections s'organisent en 2023.
Et dans cette hypothèse, quel va être le rôle de la société civile?
Il revient à la société civile de prendre des stratégies d'appropriation de ces processus et de veiller à ce que le processus électoral soit réellement démocratique et transparent.
Mais il plane dans les esprits aussi, a souligné encore Maître Kito Massimango, l'hypothèse de l'impossibilité d'avoir les élections en 2023 et il faudra déjà dès aujourd'hui penser comment éviter au pays le chaos.
Plusieurs personnes parlent de table ronde, les autres parlent de dialogue, mais nous comprenons qu'il y a un besoin réel pour qu'on puisse organiser une rencontre nationale qui va regrouper toutes les forces politiques et les forces vives de la République.
Tel est aussi le point de vue de Jean-Claude Massango Munongo, l'un des invités de la Kodia. L'ancien patron de la Banque centrale du Congo est formel. Le contexte international de la guerre d'Ukraine et ses conséquences ne sont pas de nature à permettre l'organisation en RDC en 2023 des élections qui ne soient bâclées.
Autre nouvelle, la détention de l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité à la prison centrale de Makala est illégale et irrégulière et entachée d'un vice de procédure. La déclaration est de Maître William Winga, coordonnateur national de l'ONGD Human Rescue. Il demande aux autorités judiciaires de légaliser l'arrestation de François Béa en le déférant devant un parquet général. Ce, conformément à l'article 18 de la Constitution. Maître William Winga s'est ainsi exprimé au cours d'un point de presse hier jeudi ici à Kinshasa. Ses propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La détention à la prison centrale de Makala de M. François Béya est illégale, mais aussi irrégulière. L'ex-conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État devait normalement être transféré à son juge naturel et non à la prison centrale de Makala. D'où notre demande aux autorités judiciaires de la République démocratique du Congo de légaliser l'arrestation de M. François Béya devant un parquet général. Et à son tour, ce dernier, je dis bien le parquet général, pourra instruire ces dossiers pour toutes fins utiles et c'est conformément à l'article 18 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et nous, en tant qu'organisation de promotion, protection et défense des droits de l'homme, nous n'hésiterons pas de dénoncer auprès des institutions tant nationales qu'internationales des droits de l'homme. Et la moindre chose que nous demandons aux autorités, c'est la libération immédiate de M. François Béya.
Et puis, Human Rights Watch appelle à la libération de 12 militants de la Lucha, condamnés vendredi dernier à 12 mois de servitude pénale principale par le tribunal militaire de garnison de Beni. Ces militants étaient condamnés pour désobéissance aux lois de la République pour avoir manifesté le 11 novembre 2021 contre la 12e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, Marcel Papimukeba, cette organisation de défense des droits de l'homme, demande l'annulation de cette condamnation.
Pour Human Rights Watch, la condamnation des 12 militants de la Lucha est un rappel amer de la manière dont les autorités militaires utilisent l'état de siège et les tribunaux militaires pour réprimer toute critique pacifique dans l'est du pays. Dans son communiqué, cette organisation de défense des droits de l'homme dit que lors de la manifestation du 11 novembre devant la mairie de Beni, les membres de la Lucha tenaient simplement des pancartes pour mettre en avant les revendications, une meilleure protection des civils et la fin de l'état de siège. La réponse de la police et de l'armée a été de briser la petite chaîne formée par les militants en les rouant des coups de pied et des coups de crosse de fusil, précise le communiqué. Human Rights Watch dit avoir récemment documenté la régression du gouvernement congolais en matière des droits fondamentaux et libertés sous prétexte d'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cela en violation du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dénonce-t-il. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Restons en Nord Kivu. 18 pêcheurs congolais de Kavinyonge sont actuellement détenus dans la prison ougandaise de Katwe en Ouganda. Ils ont été arrêtés par des marins ougandais dans la nuit de mercredi à Yurjidi alors qu'ils pêchaient sur le lac Édouard. Les Ougandais leur reprochent d'avoir violé les frontières liquides et de pêcher illicitement dans les eaux territoriales ougandaises. Le secrétaire exécutif de la Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard demande au gouvernement congolais de trouver une solution durable à ces arrestations répétitive. Josué Mukuraledi au micro de Bernardin Nyangi.
Nous demandons à ce que le gouvernement congolais puisse vraiment s'investir dans la gestion des conflits relatifs à la pêche au lac Édouard. Sur le plan diplomatique, c'est voir comment collaborer, faire respecter les accords déjà signés avec les Ougandais, mais aussi sur le plan technique, nous voulons à ce que le gouvernement puisse se responsabiliser et amener la bonne gouvernance dans la partie congolaise, puisque les conflits qui existent sur le lac Édouard, d'abord, c'est la mégestion au niveau du Congo. Alors, quand il y a la mauvaise gouvernance au niveau du Congo, il y a épuisement des poissons. Et les pêcheurs sont dans l'obligation de faire la poursuite des poissons en Ouganda. Mais il y a un moment donné où la marine ougandaise aussi traverse la frontière pour venir arrêter les pêcheurs congolais dans les eaux territoriales du Congo. Ce mois ici d'avril, nous venons d'enregistrer 4 cas d'arrestation de pêcheurs congolais. Le mois de mars, plus de 10 cas d'arrestation. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent que les Ougandais gagnent dans cette tracasserie au niveau de la frontière liquide.
Situation des étudiants congolais qui ont fui la guerre en Ukraine. L'ambassade de la RDC en Belgique demande à tous ces étudiants congolais d'Ukraine arrivés en Belgique de se faire identifier en son sein. Cela à partir de ce vendredi 8 avril. L'ambassade assure qu'un comité de suivi a été mis en place pour assurer le bon déroulement de ces opérations d'identification et d'enregistrement. Cette démarche permettra de mieux orienter l'assistance accordée à ces congolais réfugiés. Écoutez Christian Dongala, l'ambassadeur de la RDC au Benelux, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi Nabizana.
Notre démarche s'inscrit dans une logique de coordination et de structuration. À travers ce processus, nous souhaitons identifier formellement les personnes qui déclarent venir de l'Ukraine et aussi pouvoir mettre à jour nos statistiques en termes d'arrivée et éventuellement de départ pour ceux qui se dirigent vers d'autres pays européens. C'est le sens premier de notre démarche, protéger nos compatriotes. Ainsi donc, il nous appartient de les rassurer, de les mettre en confiance pour leur réinsertion dans la société, pour un soutien avant tout moral et psychologique. L'État est présent, il va prendre des initiatives idoines en faveur de ses enfants en situation de précarité à l'étranger. Concernant le comité de suivi en Belgique, ce dernier va aussi travailler effectivement en étroite collaboration avec le comité qui est en Pologne et dont le rôle est entre autres de centraliser et compiler les différentes données de nos différentes juridictions à l'étranger. Ainsi, notre ambassade en Pologne pourra disposer des données fiables en termes de flux des populations étudiantines venues de l'Ukraine en Belgique.
Autre nouvelle, au sud Kivu, le gouvernement congolais veut réduire sensiblement le trafic illicite des minerais. Et cela passe par une meilleure sécurisation des sites miniers. C'est dans ce cadre que les agents de la police des mines et hydrocarbures seront formés pendant 3 mois à Jules Moquet. C'est l'école de police de Bukavu. Le lancement officiel de cette formation a eu lieu mercredi dernier à Bukavu. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim ainsi que le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise qui a fait les déplacements à Bukavu pour l'occasion.
Le secteur minier est la cheville ouvrière de l'économie congolaise. Pour capitaliser sur l'apport de ces secteurs dans le budget de l'État, il faut lutter contre la fraude qui y gangrène. C'est ainsi que 125 policiers de l'unité des mines et hydrocarbures seront formés dans la traçabilité des minerais par des experts du ministère provincial des mines. Mais ces policiers seront aussi capacités sur la surveillance des sites miniers par des formateurs venant de la PNC et de la police des Nations Unies UNPOL. Le commissaire général l'adjoint de la PNC, le général Célestin Bengama.
La professionnalisation de la police nationale passe dans un premier temps par la formation. Et vous savez combien la République perd avec tous ces clandestins qui récupèrent les minerais pour aller les vendre vraiment dans la clandestinité. Avec des éléments que nous allons former, on va justement mettre une barrière à ça et que l'État puisse profiter. Il y a aussi la sécurisation des sites. Vous avez suivi l'OIM, il disait ils vont aménager même leur cantonnement après la formation. Parce que généralement, c'est ça qui pose problème. Ils terminent la formation, ils arrivent sur le site, mais ils ne sont pas casernés.
Notez que la même formation est organisée également au Nord Kivu. C'est sur financement du gouvernement américain et la mise en œuvre est assurée par l'Organisation internationale des migrations. Cynthia Bachizi, Bukavu. Radio Okapi.
Parlant toujours de la police nationale congolaise, un retard dans le paiement de la prime des policiers est souvent constaté. Des policiers doivent s'armer de patience avant que leur prime ne soit disponible dans les banques. Le commissaire général adjoint en charge des ressources humaines rassure que tout est mis en œuvre pour décanter la situation au plus vite. Le général Celestin Bengama est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Il y a des policiers qui n'ont pas perçu leur prime. Mais le problème, ce n'est pas la police qui en est responsable. Il y a un montant qu'on défalque sur la prime des policiers pour donner aux banques commerciales. Nous avons appris que ce montant n'avait pas été décaissé. Raison pour laquelle certaines banques ont refusé carrément de payer les policiers. D'autres, par contre, sont butés à des problèmes d'insécurité. Vous savez, il y a certains coins de la République où des problèmes d'insécurité se posent, ou d'accessibilité, ce qui font que le banque refuse. Alors ça pose un problème que nous devons revenir à l'ancien système qui est l'appel manuel. Alors mettre tous ces systèmes-là en place, c'est ce qui nous pose le problème. Donc je pense que dans les jours à venir, ce problème sera résolu.
Et puis dans la province du Tanganyika, le bureau du représentant adjoint coordonnateur résident et humanitaire a clôturé hier jeudi un atelier renforcement des capacités des femmes journalistes de Kalemie. L'activité qui porte sur le genre, les questions d'abus et exploitation sexuelle bénéficient de l'expertise de l'ONU Femmes. L'atelier a duré 2 jours. 22 femmes journalistes ont pris part aux travaux. À l'occasion, François-Xavier Mibé, pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, de lancer un message en direction des femmes des médias.
Demandes spécifiques en ce qui concerne la continuation et l'amélioration de la dissémination du plan de transition. La demande pour améliorer et créer un pont, une compréhension de la part des autorités politico-administratives que les femmes du réseau des médias, les femmes journalistes, aient l'accès aux autorités de manière à pouvoir collecter et diffuser de l'information fiable, vérifiable, avant leur production. Les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies continuent à créer un espace de rencontre pour les femmes des médias, Tout ceci fait partie des préoccupations que les femmes des médias ont soulevées auprès de la représentante spéciale. Bintou Keïta s'est voulu rassurante.
Le départ de la MONUSCO ne signifie pas la fin de la coopération de la famille des Nations Unies avec la province de Tanganyika. Il y a eu une rassurance que oui, ce cadre va continuer. Les inquiétudes peuvent être réduites.
L'atelier qui a regroupé toutes ces femmes des médias bénéficie de l'expertise de l'ONU Femmes. Elle se déroule alors que le processus de retrait de la MONUSCO du Tanganyika a franchi l'étape de transition. Kalemi, François Diabimbe, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La situation au Mali était au cœur d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier jeudi 7 avril. L'occasion d'évoquer le dernier rapport du secrétaire général et les soupçons de massacre des civils dans la région de Moura. Devant le Conseil de sécurité, El Ghassim Wane fait part de ses conclusions. Selon l'émissaire de l'ONU pour le Mali, le mois de mars a été particulièrement meurtrier pour les civils, avec la multiplication d'attaques de groupes terroristes, notamment dans la région sud d'Igao. Il appelle ainsi l'organisation à renforcer les moyens de la MINUSMA.
L'invité.
La société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de ne plus engager des pourparlers avec des rebelles du M23. Cette structure citoyenne encourage plutôt l'armée à poursuivre le M23 jusqu'à sa dernière demeure. Pour en parler donc, nous recevons dans cette édition du journal Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu. Il s'entretient ici avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Edgar Matesso, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui motive ces communiqués?
Le 1er avril 2022, l'M23 a annoncé avoir déposé les armes et entamé une démarche de dialogue avec les gouvernements congolais. Lorsque nous savons qu'il y a eu beaucoup d'autres démarches allant dans le sens d'amnistier les M23, c'est notamment la correspondance de 2019 de chargé de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, lui qui devait justement rappeler au gouvernement congolais qu'il fallait amnistier les M23 ou alors abandonner des poursuites des M23 devant la justice. Dans notre communication, nous avons rappelé qu'il y a certains accords qui violent les lois de la République et ça ne marche pas.
Pourquoi rappeler cela en aval pendant que la société civile, évidemment, avait pris part à ces discussions entre le gouvernement congolais et le M23 qui avait été facilité par le président Yoweri Museveni à Kampala?
Oui, en fait, la société civile avait participé au dialogue comme observatrice. Elle n'avait pas la voix délibératrice. Et d'ailleurs, on pourrait le constater, elle n'est pas signatrice de cet accord. C'est un accord qui engage le gouvernement et les M23. Qu'à cela ne tienne, les M23 s'étaient engagés à déposer les armes. Aujourd'hui, les M23 reprend les armes. Les M23 s'étaient engagés à se muer à partis politiques. Et le gouvernement congolais s'était engagé justement à agréer ces partis politiques. Certains de leurs militaires avaient été intégrés dans l'armée.
Voilà, évidemment, moi je pose cette question. Pourquoi aujourd'hui le M23 qui était censé être désarmé répond les hostilités en violation de cet accord qui avait été signé entre ces mouvements et le gouvernement congolais?
Le problème c'est que jusqu'à présent le M23 n'a pas encore communiqué par rapport aux raisons qui le poussent à reprendre les armes.
Quand vous dites qu'il n'y a vraiment pas une motivation qui pourrait justifier le fait que le M23 reprenne les armes ou reprenne les hostilités contre l'armée congolaise, est-ce qu'il y a, selon vous, nécessité à ce point-là de rediscuter avec le M23?
Dans notre communication, nous avons insisté sur le fait que l'armée doit les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, dialoguer de nouveau avec les M23. Non seulement c'est violer les lois de la République, mais aussi c'est cracher sur les efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre de la pacification. Nous sommes déjà tous dans les processus de la démobilisation des groupes armés, y compris le M23 bien sûr, comme c'est un groupe armé qui se réclame congolais. Il devrait prendre la voie de la démobilisation et non reprendre les armes.
Mais le M23 est régi d'un statut un peu particulier. Il y a des accords qui ont été signés par rapport à sa situation.
Quel quels que soient les accords, le M23 n'a pas de raison de prendre les armes.
Est-ce que vous êtes rassuré que le gouvernement également a respecté les clauses qui lui ont été assignées dans cet accord?
En fait, le gouvernement congolais s'est retrouvé devant un dilemme. D'un côté, il est devant des accords qui l'engagent avec le M23, une rébellion de surcroît. Mais de l'autre côté, il y a les lois de la République qui définissent comment on doit entrer dans l'administration publique, comment on doit entrer dans l'armée, comment on doit accéder au grade dans l'armée. Et voilà pourquoi le gouvernement congolais ne devrait pas s'empresser à respecter tout cet accord dans sa lettre, sinon il serait en contradiction avec lui-même. Et là, justement, le Parlement peut attaquer le gouvernement congolais pour haute trahison parce que c'est contre les lois de la République.
Au lieu de ne pas respecter à la lettre, il fallait pas carrément que le gouvernement puisse signer cet accord parce que il y a également ces principes de la primauté des règles internationales aux lois nationales.
Il y aura primauté des lois internationales s'il s'agissait des étrangers par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train d'estimer que les M23, s'ils s'estiment congolais, ils doivent aussi s'aligner derrière les lois de la République.
Edgar Matesso, merci.
Je vous en prie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangasa, coordonnée et supervisée par Pélé Kipelamondo. Merci pour votre particulière attention.